France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La reprise imminente de l'aide humanitaire à Gaza. Israël donne son feu vert mais les quantités seront limitées alors que 2 millions de Palestiniens sont affamés. Estime l'OMS, le gouvernement israélien qui annonce aussi vouloir prendre le contrôle de tout le territoire. Témoignages et les dernières informations dans un instant. À la une également, ces grands groupes étrangers qui investissent en France, les bus électriques de Daimler dans la Meuse, nous serons sur place, et le croisiériste MSC avec la construction de deux nouveaux paquebots à Saint-Nazaire. Avec quelle retombée, son directeur industriel sera notre invité. À suivre encore, le transport de malades qui coûte décidément trop cher. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Tour de vis du gouvernement contre lequel s'insurgent les taxis.
Oui, car la Sécu cherche à faire baisser la facture. Plus de 3 milliards d'euros en 2024, c'est 45% de plus qu'en 2019. Nous verrons pourquoi.
A tout de suite, toujours sur les routes, nous verrons que des véhicules radars privés flashent depuis quelques jours dans le département du Var, que les salariés de la restauration souffrent toujours de violences de la part des chefs et certains chefs se mobilisent. Et puis nous parlerons de Jim Morrison, le mythique chanteur des Doors. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Le buste de sa tombe parisienne vient d'être retrouvé.
Totalement par hasard, par la police, lors d'une perquisition. C'est l'un des plus grands mystères du Père Lachaise. Nous le verrons qu'il n'est pas encore totalement résolu.
Et vos précisions dans quelques minutes. À partir de 13h30, les entrepreneurs en crypto-monnaie ciblés par plusieurs enlèvements ces dernières semaines. Pour quelles raisons et au fond, comment fonctionne cette économie dont on parle de plus en plus? 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Les mots du cinéma sont aussi les mots de nos régions, nous dira Mathieu Avanzi. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, une grande chanson mexicaine. La Llorona par Chavela Vargas. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Deux mois après, des camions humanitaires devraient pénétrer dans les prochaines heures dans la bande de Gaza. C'est l'information de la matinée, alors que la moitié de la population de l'enclave a été menacée par la faim entre mars et avril. Selon l'ONU, cela représente plus d'un million de personnes. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Thibault, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. C'est une concession faite par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui s'en est expliqué ce matin auprès de ses alliés qui, eux, n'en voulaient pas.
Oui, Benjamin Netanyahou est clairement passé en force. Hier soir, ses alliés d'extrême droite, eux favorables au blocus total de Gaza, ont crié au scandale après avoir été empêchés de voter. Le Premier ministre a évoqué une décision de l'armée pour autoriser, donc sans consultation, l'acheminement de l'aide humanitaire. On parle ce matin dans la presse israélienne de 30 camions par jour. Les autorités donneront des détails un peu plus tard dans l'après-midi, mais c'est évidemment une goutte d'eau pour faire face au désarroi d'une population à bout. Écoutez le témoignage de Mohamed, encore une fois jeté de chez lui par les bombardements incessants.
On a pris la route avec ma femme, nos enfants, mes sœurs, leurs maris et mes neveux. On a marché 17 ou 20 kilomètres. Ce que je ressens va au-delà de l'épuisement et de l'impuissance. Ils veulent simplement notre anéantissement. Et tous ces pays à l'étranger, hypocrites et complices qui ne veulent rien faire pour stopper ça et pour protéger les civils innocents.
Cette réponse humanitaire est donc dérisoire, Jérôme. C'est surtout un message à destination des Américains et des Européens qui, ces derniers jours, ont mis la pression sur Israël pour répondre à l'urgence.
Alors, Israël qui ouvre enfin à Gaza l'aide humanitaire, mais qui continue de bombarder encore ce matin.
Oui, et le Premier ministre israélien souffle, lui, le chaud et le froid, puisque dans une vidéo publiée par ses services de communication, il a donc assuré ce matin que son armée occuperait prochainement Gaza.
Nous allons prendre le contrôle de tout le territoire de la bande de Gaza. Le but principal est de vaincre le Hamas. Et cela va se faire avec une combinaison de combats très intense et une action équilibrée en matière de nourriture et de médicaments. Nous parviendrons à la victoire complète.
Et comme pour répondre à l'injonction du Premier ministre, l'armée israélienne vient d'appeler à évacuer l'ouest de la bande de Gaza pour lancer, dit un de ses porte-parole, une offensive sans précédent.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Vous nous avez parlé sur ce dossier du Proche-Orient des pressions de Donald Trump. Eh bien, la politique économique du nouveau président américain change aussi la donne pour le rendez-vous annuel dédié en France à séduire les investisseurs du monde entier. Le salon Choose France, choisissez la France, se tient au château de Versailles aujourd'hui. 20 milliards d'euros de projets dévoilés, dont ces 3,5 milliards investis à Saint-Nazaire par le croisiériste suisse MSC Croisières. On va en parler dans un instant avec notre invité. Avant cela, direction la Meuse, à l'usine de bus Daimler de Ligny-en-Barrois, où s'est rendu ce matin Emmanuel Macron. Jérôme Val, vous suivez cette visite. Le groupe allemand annonce des investissements dans les bus électriques.
Un site symbolique aux yeux d'Emmanuel Macron. Ici, au cœur de la Meuse, le chef de l'État a visité une ligne de production de bus aux côtés du grand patron du groupe allemand.
Bonjour monsieur, vous allez bien ?
Ça va ?
Ça se passe bien ?
Ça se passe très bien.
Ah, bravo. Bonjour monsieur, bon courage.
Bonjour président. Bonjour,
merci.
De ces chaînes sortent chaque année 2000 bus environ qui roulent dans quelques villes de France, dont Rennes, mais aussi en Pologne, Belgique ou pays scandinaves, avec une transition en cours pour pouvoir assembler de plus en plus de véhicules électriques.
Le Listaro a démarré l'année dernière sur le site. On en a produit 14 l'année dernière.
Le Listaro, c'est un bus de ville, hein, c'est ça.
Le Listaro, c'est un bus de ville.
Et il y en aura 150 cette année. Une transition qui a un coût, d'où les annonces faites ce matin. Daimler Buses va investir 92 millions d'euros d'ici l'an prochain pour s'agrandir. Ligny-en-Barrois va devenir le plus grand site de production de bus électriques en Europe. À la clé aussi, l'embauche de plus de 600 personnes, confortant sa place de premier employeur privé du département. Des décisions saluées par Emmanuel Macron.
Et derrière ces montants, le fait que non seulement on va consolider des emplois, ça veut dire de manière très concrète pour des intérimaires qui sont là, ça va être des emplois durables, mais des jeunes qui vont sortir d'alternance, d'apprentissage, vont pouvoir être recrutés. Ou d'autres qui sont en reconversion, peut-être d'ailleurs suite à des licenciements, pourront être embauchés. On ne lâche rien.
Une visite express pour le président repartie il y a quelques minutes, direction Versailles, toujours accompagné du PDG de Daimler.
Jérôme Val dans la Meuse pour Inter. Alors parmi les projets nouveaux annoncés, celui du géant américain de la logistique, l'américain Prologis qui met 6,4 milliards sur la table pour la construction de centres de données et d'entrepôts. Et puis MSC Croisière qui va donc construire ses deux nouveaux navires au chantier de Saint-Nazaire pour 3,5 milliards d'euros. Bonjour Herminio Esquena.
Bonjour.
Vous êtes directeur des affaires institutionnelles et industrielles au sein du groupe suisse MSC. Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Est-ce qu'on sait à quoi vont ressembler ces deux nouveaux navires de croisière ? Combien de passagers ils pourront embarquer ?
Alors, ces nouveaux paquebots viennent d'une plateforme que nous avons déjà initiée à Saint-Nazaire. Mmh. Ils sont le cinquième et le sixième de série. Et cette plateforme a l'avantage d'être très versatile et donc permet des aménagements pour qu'elle puisse, les nouvelles constructions, s'adapter à des marchés qui vont bénéficier de cette offre loisirs que nous allons apporter avec les nouvelles constructions. Les MSC de classe 5 et 6 dont il est question aujourd'hui pour un investissement direct total de 3,5 milliards d'euros viennent d'une histoire très longue de collaboration entre le groupe MSC et Chantiers de l'Atlantique, donc les chantiers navals à Saint-Nazaire. 19 sur 23 paquebots qui composent notre flotte ont été construits en France. Mmh. Donc nous avons choisi la France depuis déjà deux décennies et nous continuons à choisir la France et Saint-Nazaire encore aujourd'hui.
Je vous repose ma question, à quoi est-ce qu'ils vont ressembler ces bateaux ? Combien de passagers ? Quelle taille ?
Alors aujourd'hui, ces deux paquebots sont des paquebots dans la continuité de ce que nous proposons. Donc vous avez quelques 300 mètres, un peu plus de longueur et une capacité d'accueil d'à peu près 6500 passagers.
Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'impact pour l'emploi à Saint-Nazaire ? Est-ce que vous allez recruter du personnel ou bien est-ce que ça permet déjà de maintenir la taille et le volume d'emploi actuel ?
Cela va bien au-delà de l'actuel, donc 3,5 milliards d'euros d'investissement. Cela a comme conséquence directe que de générer plus de 20 millions d'heures de travail supplémentaires pour Chantiers de l'Atlantique, de soutenir durant toutes les phases de construction, donc jusqu'à 2030, plus de 3 000 emplois sur le site de chantier, mais qui deviennent presque 10 000 avec les 500 entreprises françaises qui participent tout au long du processus à la co-réalisation de ces deux paquebots. Donc nous sommes sur un investissement qui a des conséquences directes et indirectes sur l'économie réelle du pays France, qui est importante, structurante et qui vient compléter aujourd'hui notre histoire avec plus de 18 milliards d'euros déjà investis dans la construction navale à Saint-Nazaire.
Parce que c'est un marché, le marché des croisières, qui est en croissance ?
Le marché de la croisière est en croissance parce que les paquebots, et notamment les paquebots des MSC Croisières, deviennent des destinations à part entière où l'offre loisirs est plébiscitée par les vacanciers internationaux et les vacanciers français. Et donc, nous continuons sur cet élan et nous allons proposer des paquebots et donc une variété d'offres loisirs qui va continuer dans le temps.
Herminio Esquena, il y a de plus en plus de destinations, je pense à la métropole de Nice en France, qui réfléchissent à des restrictions pour les paquebots en raison de la pollution qui est générée. Est-ce que ça vous inquiète ?
Alors, MSC a dans son ADN structurellement une démarche qui est très éco-compatible et en collaboration avec Chantier de l'Atlantique, nous sommes pionniers. Et d'ailleurs, les paquebots dont on vient de signer la commande aujourd'hui proposent déjà une propulsion bicombustible qui permet déjà, d'une manière très avancée, de pouvoir utiliser des carburants de synthèse ou biosourcés dès qu'ils seront disponibles à grande échelle. Aujourd'hui, cette propulsion a déjà fait ses preuves avec des voyages qui ont été nets d'un zéro, donc impact carbone.
Mais aujourd'hui, ça reste du fioul.
Du gaz naturel liquéfié. En ce qui concerne notre démarche sociétale, nous sommes toujours à l'écoute des exigences des ports et des villes qui nous accueillent et nous travaillons en étroite collaboration. Les exemples sont multiples à Dubrovnik, à Venise, parce que nous sommes capables de maîtriser les flux de nos passagers et donc des vacanciers et donc d'apporter une véritable solution quand le problème se manifeste.
Merci Herminio Esquena d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui à l'occasion de cette annonce de nouveaux navires construits pour MSC Croisières au chantier de Saint-Nazaire pour 3,5 milliards d'euros. L'Elysée qui suit, on l'a bien compris, de très près les dossiers économiques. Ça vaut pour Choose France aujourd'hui, mais pas seulement. C'est la conclusion à laquelle est parvenue ce matin la commission d'enquête du Sénat sur un autre secteur d'activité, les eaux en bouteille. La commission présentait son rapport ce matin. Ça concerne le groupe Nestlé, qui, pour continuer de vendre ses eaux minérales, notamment Perrier, a utilisé des traitements interdits avant d'obtenir pour cela des dérogations avec l'aval des services de la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, et des services aussi d'Emmanuel Macron. Tout cela a été détaillé ce matin à 7h50 sur France Inter par le rapporteur de cette commission, le sénateur socialiste Alexandre Huizille. Bonjour Marie Dupin.
Bonjour Jérôme.
Vous appartenez à la cellule investigation de Radio France. Vous enquêtez sur ce sujet depuis des mois. Ce qu'il faut dire également, Marie, c'est que ces pratiques continuent aujourd'hui dans le Gard et dans les Vosges.
Bah oui, hein, ce qu'on découvre, Jérôme, ce matin, c'est que le gouvernement, mais aussi le préfet du Gard où est produite la marque Perrier et l'Agence régionale de santé d'Occitanie, se sont entendus avec Nestlé pour faire disparaître des éléments importants sur la qualité sanitaire des forages qui sont exploités pour produire notamment la marque Perrier. Ensemble, ils ont fait disparaître la preuve que ces eaux, ces puits étaient pollués. Des noms de bactéries et de pesticides ont été effacés d'un rapport à la demande de Nestlé, au point qu'un agent du contrôle sanitaire a demandé à ce que sa signature soit retirée du rapport. Et ce que confirme aussi l'enquête du sénateur Alexandre Huizille, c'est que les filtres encore en place dans les usines aujourd'hui ne permettent pas de désinfecter l'eau correctement. Encore aujourd'hui, la tromperie continue. Nestlé embouteille des eaux Perrier, labellisées eaux minérales naturelles, qui sont en fait produites avec des eaux polluées, et ce, malgré un avis sanitaire négatif de scientifiques agréés par le ministère de la Santé. Et effectivement, dans les Vosges, où sont produites les marques Vittel, Épar et Contrexte, eh bien, il y a encore beaucoup de questions. Hein. Récemment, la préfecture des Vosges a pris un arrêté pour de nouveau autoriser Nestlé à avoir recours à des filtres non réglementaires. Ces arrêtés à Radio France avec la cellule investigation, nous y avons eu accès, mais ils n'ont pas été rendus publics, alors que c'est normalement obligatoire. Donc, pour résumer, aujourd'hui encore, Nestlé exploite des eaux polluées pour produire de fausses eaux minérales naturelles, et les L'État continue de dissimuler des informations à ceux qui achètent ces eaux en bouteille.
Merci Marie Dupin pour ces informations que l'on retrouve sur le site de Radio France. On reparle de ce sujet ce soir dans le Téléphone Sonne à partir de 19h20. Trois nouvelles régions françaises sont équipées depuis quelques jours de voitures radars privé, l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et dans cette dernière région, c'est le département du Var qui est le premier doté. Trois véhicules équipés de radars embarqués flashent les voitures qui les doublent ou les voitures qui les croisent. Ça se passe 7 jours sur 7 depuis le 1er mai. Et Sophie Glotin, les automobilistes varois en ont déjà entendu parler.
Ce n'est pas du tout une surprise pour Mika.
J'étais au courant parce qu'il y a des photos sur Internet et tout, des modèles de voitures, donc ça peut aider.
Reste à savoir où ces trois berlines circulent. Les chauffeurs ont à disposition un catalogue de dizaines d'itinéraires accidentogènes déterminés par les services de l'État. Joséphine Gigliano-Boutonnet est la directrice de cabinet du préfet du Var.
Le catalogue, c'est plus de 2000 km pour le département. Toutes les routes sont concernées avec malgré tout une priorité donnée sur les départementales et les axes autoroutiers.
Ces voitures radars vont traquer les grands excès de vitesse à partir de 60 km/h en ville, 143 km/h sur l'autoroute. Et c'est une bonne idée pour Corinne.
Ça roule à toute allure, donc ça serait bien. De toute façon, on voit tous les accidents qu'il y a.
Oui, c'est une bonne idée.
Plus, ah oui.
Christophe n'est pas vraiment du même avis.
Les gens comme vous et moi, je ne suis pas d'accord. Il y a la police pour ça, quoi. Ils ne sont pas assez, quoi. Donc embaucher de la police, alors.
William, un autre automobiliste varois.
Ça fait partie encore d'un truc en plus pour pouvoir taxer, mais c'est que ça.
C'est aussi ce que pense Michael, qui lui se pose une autre question.
Ben, est-ce que privatiser la sécurité routière, c'est une vraie bonne idée, quoi? C'est quelque chose d'utilité publique et non pas soumis à des entreprises qui veulent justement rentrer du chiffre d'affaires.
Reportage ici Provence, déploiement aussi depuis quelques jours dans le département de l'Allier. À l'aéroport d'Orly, le trafic est toujours perturbé ce matin. 15% des vols sont annulés suite à une panne de contrôle aérien survenue hier et qui n'est toujours pas résolue. Revenons sur les routes, puisque la circulation est perturbée depuis ce matin dans de nombreuses villes par des milliers de taxis. Ils étaient une centaine à Strasbourg, plusieurs centaines en Île-de-France, 200 sur le périphérique de Nantes pour dénoncer les nouvelles règles du transport sanitaire et une nouvelle tarification. Agnès Soubiran, on vous retrouve. Les taxis conventionnés ont touché plus de 3 milliards d'euros en 2024 pour le transport des malades. C'est 45% de plus depuis 2019. Comment l'expliquer ?
Alors, parmi les raisons, le vieillissement de la population, avec de plus en plus de personnes dépendantes, 3 millions de malades transportés en taxi en 2024. Constatez aussi la hausse des maladies chroniques, mais aussi le recours plus fréquent à la chirurgie ambulatoire, avec des malades qui peuvent certes quitter l'hôpital, mais ne peuvent pas conduire. La fermeture de certaines petites structures qui obligent les malades à faire des trajets plus longs et donc plus cher. Tout cela concourt à l'envolée des dépenses de taxi. Et malgré ce coût toujours plus lourd pour la sécu, eh bien le fonctionnement n'est pas optimum avec des inégalités territoriales, que ce soit pour la disponibilité des taxis ou pour leur coût. L'idée de la nouvelle tarification proposée par la CNAM, c'est donc de pérenniser le système, oui, mais en le rationalisant avec des transports partagés quand c'est possible. L'Allemagne et l'Espagne le font déjà. Et éviter au maximum les retours à vide. Un logiciel et une meilleure coopération entre les organismes le taxi pourrait permettre de mieux réguler les allers-retours. Les premières mesures devraient permettre d'économiser 300 millions d'ici 2027.
Agnès Soubiran pour cet éclairage. Le risque météo aujourd'hui, ce sont les orages. 11 départements du sud-ouest sont en vigilance orange. Le Lot, le Tarn et Garonne et la Dordogne le sont également pour les pluies et pour les inondations. Le département du Nord lui est placé en vigilance sécheresse en raison d'un déficit record de pluie depuis 3 mois, déficit de 63% du 1er février au 5 mai, selon les autorités. Météo complète dans une dizaine de minutes.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
30 ans d'agressions sexuelles commises sur des enfants, des centaines d'enfants, dans plusieurs hôpitaux du pays. Mais personne n'a pu ou personne n'a voulu arrêter Joël Le Squarnec. Le procès de l'ancien chirurgien se poursuit devant la cour criminelle du Morbihan. Et précisément aujourd'hui, la cour doit entendre plusieurs responsables des instances hospitalières. Tout cela alors qu'à l'extérieur, devant le tribunal de Vannes ce matin, un collectif de victimes a manifesté. Elle demande aux élus et à l'ordre des médecins de s'engager dans la lutte contre la pédocriminalité dans la médecine. Sur place, Frédéric Collat.
Une scène de crime reconstituée au sol sur un drap blanc autour de nombreuses banderoles dénonçant notamment l'ordre des médecins. Une quarantaine de victimes, parents de victimes, membres de collectifs sont venus ce matin exprimer leur colère, leur impression de ne pas être entendus.
À vous la société, à vous les politiques, écoutez-nous.
Car il s'agit pour eux de parler de l'après-procès. Quelles mesures pour que plus jamais un Le Squarnec puisse exister, alors leur message s'adresse aux élus, interpelle les ministres de la Santé, de la Justice notamment.
Nous leur demandons solennellement d'ouvrir une commission interministérielle pour que ce procès soit un point de bascule. Nous voulons
mieux protéger les enfants victimes de violences sexuelles avec des dispositifs accessibles et pérennes pour y libérer leur parole dans tous les lieux de vie. Une obligation légale de signalement par les médecins de toute suspicion de violence sexuelle sur mineurs.
Interdiction d'exercer toute profession de santé pour les personnes condamnées pour violence sexiste ou sexuelle.
Main sur les oreilles, main sur les yeux, main sur la bouche pour symboliser tous ceux qui n'ont rien voulu voir, rien voulu entendre ou qui n'ont rien dit. C'est ainsi que s'est terminé ce rassemblement sur la parole émue d'une énième victime.
Plus jamais ça. Pas dans un hôpital, pas dans une école, pas dans une église. Pas dans une famille, nulle part.
Reportage ici armorique, le débat sur la fin de vie à l'Assemblée nationale. C'est le texte le plus controversé, celui qui vise à octroyer un droit à mourir aux patients en phase terminale qui est examiné depuis ce matin en séance. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Et on débat des critères d'accès.
Oui, faut-il par exemple que le pronostic vital soit engagé pour être éligible au droit à mourir ? C'est ce que dispose le texte dans sa version actuelle. Eh bien la députée socialiste Marie-Noëlle Battistel a déposé un amendement pour supprimer ce critère.
Nous proposons donc de supprimer la condition d'avoir son pronostic vital engagé pour accéder à l'aide à mourir, ce qui permettrait de prendre en compte des situations plus difficiles, les cas des maladies neurodégénératives, les souffrances physiques ou psychologiques réfractaires ou insupportables qui peuvent intervenir dès les stades avancés de la maladie.
Mais elle s'est heurtée à l'opposition de nombreux députés à droite, mais aussi à gauche, le député communiste Yannick Monet.
Non, supprimer le pronostic vital, pour moi, c'est pas possible. C'est typiquement la situation où on essaye de prendre en compte tous les cas, mais à force de vouloir en prendre en compte tous les cas, on ouvre tellement la loi qu'on permet à d'autres situations qui ne sont pas acceptables de rentrer dans l'application de la loi.
Et opposition ferme également de la ministre au banc, Catherine Vautrin.
J'ai la même conclusion que le rapporteur, c'est-à-dire un avis défavorable et particulièrement défavorable. Le pronostic vital est franchement l'une des clés des conditions d'accès à l'aide à mourir.
À droite et à l'extrême droite, on tente au contraire de restreindre les conditions d'accès en précisant cette notion de pronostic vital. Le député RN Hervé de Lépineau.
Le pronostic vital engagé, effectivement, est une notion floue. Donc nous proposons dans cet amendement de cadrer à 12 mois ce fameux délai pour permettre et aux médecins mais également aux juristes d'avoir un point de repère fiable.
Ces amendements ont été rejetés et les débats se sont poursuivis ce matin sur cette délicate question des bornes temporelles qui avait déjà occupé la commission lors de ses travaux.
Merci Marie Mollet et j'ajoute que ce matin la conférence des évêques de France qui dénonce cette proposition de loi appelle les fidèles à agir en interpellant leurs parlementaires. Elle lance une campagne d'affichage contre le texte dans les églises et dans les services des diocèses. C'est un très grand mathématicien, mais saura-t-il endosser le costume de président ? En tout cas, le maire de Bucarest, Nicu Zorda, a créé la surprise hier au second tour de l'élection présidentielle en l'emportant beaucoup plus nettement que prévu face au candidat d'extrême droite Georges Simion. Nicu Zordan, roumain, a fait une partie de ses études en France et il défend une ligne pro-européenne et pro-ukrainienne. Mais le voilà maintenant à la tête d'un pays divisé. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place à Bucarest, en Roumanie. Vous avez pu le rencontrer hier soir. Quels sont ses projets ?
Alors le premier projet, c'est la composition d'un gouvernement. Nicu Zordan débute dès aujourd'hui des discussions avec les partis pro-européens. Hier soir, devant la presse étrangère, ce francophone qui a étudié les mathématiques à Paris dans les années 90, à l'école normale supérieure, puis à la Sorbonne, a été assailli de questions en français.
Monsieur le Président,
en anglais, il se félicite du coup de fil que lui a passé Emmanuel Macron. Parmi les priorités du nouveau président roumain, le déficit du pays et les questions de sécurité liées à la guerre en Ukraine.
Si l'Europe veut prendre sa sécurité dans ses propres mains, on doit avoir un accord sur ces questions fondamentales.
Et le maire de Bucarest, arrivé à la tête de la capitale en 2020, réélu l'année dernière, déroule ses objectifs.
On doit continuer la direction occidentale de la Roumanie, réformer l'État roumain, on doit réduire la corruption. Il y a besoin de l'effort de la société pour tout cela.
une société profondément divisée. Après l'annulation du premier tour de la présidentielle en novembre 2024 et la poussée de l'ultranationalisme, Nikou Chardan dit ne pas avoir de preuves directes d'une ingérence russe. Il promet d'œuvrer pour rassembler tous les citoyens roumains.
Virginie Pironon, avec les moyens techniques de Michael Simon, vous nous parliez des relations avec la Russie. On a appris ce matin que la Russie interdit désormais l'ONG Amnesty International. Le parquet général russe la déclare indésirable. Les relations se réchauffent entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. 5 ans après le Brexit, sommet à Londres aujourd'hui et un accord sur plusieurs textes ce matin, dont la pêche, les pêcheurs européens vont continuer d'avoir accès aux eaux britanniques pour les 12 prochaines années. Un accord également sur, pour réduire les contrôles sur la nourriture et sur les végétaux dans le cadre des futurs échanges entre Européens et Britanniques. En cuisine, le climat a beaucoup de mal à s'améliorer ces dernières années. Les témoignages en France se sont multipliés pour dénoncer la violence des chefs, à tel point que l'association Bondir, qui s'est engagée dans la lutte contre les violences en cuisine, propose désormais des formations dans les écoles hôtelières. Hier, formation gratuite et ouverte à tous, à laquelle a pu assister Sarah Mansoura.
Dans la salle, autant de femmes que d'hommes, de la vingtaine à la cinquantaine. Tous écoutent les intervenants qui rappellent les définitions essentielles. Harcèlement, agression, consentement.
Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que c'est un viol ?
C'est d'imposer à quelqu'un de façon répétée.
Ils multiplient surtout les exemples concrets pour faire réagir.
Ça passe par des, entre guillemets, petites violences, type coup de torchon.
Victoria Nardone, présidente de Bondir et chef pâtissière à Dahlia, à Paris.
Des violences plus importantes, comme des brûlures, se faire pousser contre des choses très chaudes comme les fours, etc. Se faire enfermer dans la chambre froide.
Une recette qui fait mouche, beaucoup réagissent, hochent la tête. Mathurin, par exemple, sous-chef dans un restaurant gastronomique, il a vécu des violences physiques et psychologiques.
J'ai un chef qui, en saison, m'a donné un coup de poing dans les côtes sans raison, juste parce qu'il avait besoin de se défouler en plein rush. Ce geste-là m'a fait moins de mal que les violences morales que j'ai subies. On a trop cette habitude de dire c'est normal. Non, on peut être passionné tout en ayant un environnement de travail sain.
D'où l'utilité de ces formations pour Martin, 32 ans, qui a toujours travaillé en restauration.
Je me suis rappelé de choses que je vivais, je m'étais pas rendu compte que c'était des agressions et tout. Et j'ai pas envie d'être dégoûté du métier. Donc c'est une bonne note d'espoir. Moi j'ai bien envie d'agir avec cet asso.
Il faut oser agir et libérer la parole, dit-il. D'ailleurs, l'association Bondir a créé une cellule écoute spécifiquement destinée au recueil de témoignages et aux conseils par les pairs.
Reportage Sarah Mansoura. C'est un mystère vieux de 37 ans. Qu'est devenu le buste de Jim Morrison, le mythique chanteur des Doors, mort et enterré à Paris au Père-Lachaise depuis 1971. Sa tombe était ornée d'un buste qui avait donc disparu. Simon Le Baron, vous êtes avec nous. Et c'est la police qui l'a retrouvé.
Oui, par hasard, lors d'une perquisition pour escroquerie. La police judiciaire parisienne n'en dit pas plus, mais communique sur ses réseaux sociaux. Il faut dire que c'est une découverte incroyable, s'enthousiasme Sébastien Floch, auteur d'une BD l'an dernier chez Delcourt sur le Père-Lachaise.
Le buste de Jim Morrison, c'était le symbole de la tombe. Les gens pensent encore quand ils vont voir Jim Morrison, qu'ils vont voir ce buste-là, alors qu'il n'est plus là depuis 88. Et le jour où il a disparu, évidemment, c'est un bout de l'âme de cette tombe et de Jim Morrison qui a disparu. Donc c'est incroyable de l'avoir retrouvé. C'est vraiment un événement fou pour les fans de Jim Morrison et du Père Lachaise.
Il a des airs de Molière, ce buste, mais un Molière recouvert de graffiti et nez cassé, comme au moment de sa disparition dans la nuit du 9 au 10 mai 88. Vol revendiqué d'ailleurs à l'époque par deux anonymes dans le journal Globe.
Il y avait une belle photo d'eux dans ce journal Globe où ils racontaient qu'ils étaient restés au Père-Lachaise jusqu'à la nuit tombée et dans la nuit ils étaient repartis en mobylette. Savoir si ça a vraiment été eux qui l'ont volé et ce qui est devenu ce buste pendant tout ce temps, ça va être aussi un élément énorme et qui va révéler une des légendes absolues du Père-Lachaise.
Légende absolue pour une tombe mythique, ajoute le guide Bertrand Beyerne, grand spécialiste de ce cimetière.
C'est à la fois la tombe la plus recherchée, la plus visitée. Je n'ai même pas souvenir d'avoir vu dans le monde une tombe davantage visitée.
Alors on ne sait pas si ce buste va être réinstallé, mais on sait qu'il suscitait dans les années 80 pas mal de débordements alcoolisés.
Et ça va relancer les visites et l'intérêt de tous les fans des Doors et de Jim Morrison pour ce lieu, Père-Lachaise, à Paris. Merci Simon Le Baron. Riders on the Storm, oui. Évidemment, ce qui va nous amener assez naturellement d'ailleurs à la météo. 13h28 sur Inter. La météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, qui en veut ? aux acteurs de la crypto-monnaie et pourquoi l'une des figures et porte-parole du secteur, Claire Balva, est notre invitée. 01 45 24 7000 pour vos questions, notamment si vous ne comprenez pas tout à la crypto, on est nombreux dans ce cas, venez nous en parler, ou si vous êtes vous-même possesseur de crypto, ça concerne 10% des Français. 13h45, à deux semaines de la révélation du prix du livre Inter, on débute notre série, on va vous présenter les 10 livres candidats, le premier aujourd'hui, Bristol de Jean Echenoz, ce sera avec Eva Bétan. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Mathieu Avanzi et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Mathieu, vous nous parlez de cinéma.
Derrière les projecteurs et les flashs, il y a des regards qui espinchent, des couples qui s'accointrent, des cagoles qui font des chichis et quelques cats bien tankés qui bombent le torse. Bienvenue à Cannes, mais en version régionale.
C'est un festival, dites-moi. Et avec vous, Frédéric, une chanteuse.
Une chanteuse marseillaise, Christina Rosmini, que l'on peut entendre en ce moment à la Divine Comédie à Paris. Et avec elle, c'est un classique du répertoire mexicain que l'on écoutera, La Llorona, par la grande Chavela Vargas. Elle a plusieurs histoires très fortes avec cette chanson.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Sur rockena.com, les bonnes affaires du moment. Sur rockena.com, je suis au firmament.
Ok Chantal, c'est lourd, mais viens, on la fait plus badass, t'as capté?
Ok Coco, balance l'instru.
Sur Akena.com, je kiffe les bons gros deals. Sur Akena.com, je vais skier les crocodiles.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Êtes-vous contraphobe?
Oh bah oui, parce que franchement, les estimations de remboursement de frais de santé en pourcentage qu'on doit calculer, bah c'est comme peser les légumes soi-même au supermarché. On a l'impression de payer les gens, mais de faire leur boulot.
Chez Malakoff Humanis, notre simulateur estime les frais de santé directement en euros.
Ah bah voilà, Malakoff Humanis, vous dites.
Estimation des remboursements des frais de santé en euros? Clairement, c'est Malakoff Humanis. Retrouvez les informations relatives aux entités du groupe Malakoff Humanis sur malakoffhumanis.com.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec le baume Hydradéfense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Attention donc aux orages dans le sud-ouest.
Oui, des averses parfois orageuses circulent au sud de la Loire. Alors l'activité va se renforcer en des Pyrénées à l'ouest du Massif central. 11 départements sont placés en vigilance orange, orages et ou pluie inondation. La région Midi-Pyrénées, la Dordogne, l'Aude, le Cantal. On attend des orages parfois violents, beaucoup de pluie en peu de temps, de la grêle, de fortes rafales de vent également pouvant ponctuellement dépasser les 100 km à l'heure. Ces orages, ils vont progresser vers la Bourgogne-Franche-Comté ce soir. En revanche, ils vont s'estomper sur le sud-ouest, mais ça restera bien pluvieux toute la nuit prochaine. Sur les Alpes, là aussi, des averses et parfois un orage. Et puis le soleil domine de la Bretagne au Grand Est en passant par la région parisienne, près de la Méditerranée aussi avec un vent sensible. Côté thermomètre, ça baisse sur le sud-ouest, mais ça monte au nord. Il fait 16 à 23 degrés cet après-midi près de la Manche, près de l'océan, et 21 à 26 degrés ailleurs.
Elodie Calac, Météo France.
France Inter. De 13-14. Jérôme Cadet.
5 enlèvements ou tentatives d'enlèvement depuis janvier ont fait basculer un secteur économique dans la peur, celui des crypto-monnaies. Il faut dire que les malfaiteurs sont apparus aussi amateurs que déterminés, n'hésitant pas par deux fois à couper le doigt de leurs otages pour obtenir des rançons. À chaque fois, de ce que l'on sait, ils n'ont rien obtenu. Vendredi, le ministre de l'Intérieur a reçu quelques figures de ce secteur pour les rassurer. Alors pourquoi ces entrepreneurs sont-ils pris pour cible aujourd'hui? Sont-ils plus fortunés que d'autres? Plus vulnérables, moins prudents? Pour répondre à toutes ces questions, nos deux invités. Claire Balva, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de stratégie de Debloc, c'est une banque spécialisée dans les crypto-monnaies, c'est bien ça?
C'est ça, en gros.
En gros, voilà. J'espère que vous ne me direz pas ça trop souvent dans cette interview. C'est ça, mais en gros.
C'est un compte courant avec un portefeuille crypto.
Avec nous également, Alexandre Stachenko. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de stratégie pour Paynium. Paynium, c'est une plateforme d'échange française de crypto-monnaies, c'est ça, qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans?
Spécifiquement de Bitcoin en particulier, mais on est courtier également pour d'autres crypto-monnaies, effectivement.
01 45 24 7000 pour vos questions. Vous passez également via l'application Radio France. Claire Balva, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer simplement pour tous ceux qui ne comprennent pas ce mécanisme des crypto-monnaies, comment elles fonctionnent?
Alors, les crypto-monnaies, ce sont des monnaies ou des projets de monnaie qui sont exclusivement numériques, donc pas de pièces, pas de billets, et qui ont la particularité de fonctionner sans banque centrale. Donc derrière, il y a un projet de décentralisation des monnaies, d'avoir des monnaies plus transparentes, plus décentralisées. Il y a plein de crypto-monnaies différentes, mais pour le faire très simple, la plus grande s'appelle Bitcoin.
Bitcoin, dont voilà, on a parlé
elle représente, plus de la moitié du marché. Et derrière Bitcoin, il y a ce projet d'une monnaie d'Internet, c'est-à-dire une monnaie qu'on peut s'envoyer de pair à pair sans intermédiaire.
Ça, c'est l'intérêt, Alexandre Stachenko, c'est d'échanger de l'argent sans contrainte, directement ?
Pas sans contrainte en soi, mais oui, je pense qu'il faut passer 30 secondes sur la situation actuelle pour comprendre en quoi Bitcoin change la situation. Mais dans le monde numérique actuel, lorsque l'on veut s'échanger de la valeur en ligne, on n'a pas le choix, on ne peut rien posséder, on a tout sur un compte chez quelqu'un. Ça peut être un prestataire de services de paiement, de carte bleue ou une banque, mais on n'a pas ce choix comme dans le monde physique de posséder soi-même son argent, comme avec du cash dans un portefeuille, ou voilà, quand j'ai du cash dans mon portefeuille, je ne dépends pas d'un tiers.
Je peux le garder chez moi,
je peux payer quelqu'un sans demander d'autorisation.
Dans le numérique, c'est pas possible.
Dans le numérique, c'est pas possible.
Sauf
avec Bitcoin, qui justement invente ce nouveau concept de propriété privée numérique et qui donc permet de reprendre la possession de ses actifs et de s'envoyer des transactions sur Internet partout, sans intermédiaire, et de le faire beaucoup plus rapidement et sans contrainte. Parce qu'un paiement en Bitcoin, par exemple, va prendre quelques minutes ou quelques secondes à l'autre bout de la planète, y compris le samedi à 23h, alors que les virements bancaires peuvent prendre plusieurs jours, par exemple.
Mais la valeur n'est pas fixe. Claire Balva, si j'achète des crypto-monnaies aujourd'hui, elles auront changé de valeur dans un an ou a fortiori dans quelques mois ?
La valeur, ça se mesure toujours par rapport à quelque chose. Donc effectivement, si on mesure la valeur par rapport au dollar ou à l'euro, cette valeur, elle est nécessairement fluctuante et elle dépend d'une chose assez simple, c'est l'offre et la demande. Donc plus il y a de gens qui veulent acheter, plus le prix monte et plus il y a de gens qui vendent, plus le prix descend.
Donc il peut y avoir de la spéculation, il y a de la spéculation autour des crypto-monnaies.
Ah bien sûr, il y a des gens qui achètent dans l'espoir de gagner de l'argent. Oui.
Un dernier mot avant de venir vraiment au risque encouru par les entrepreneurs depuis quelques semaines. C'est un secteur qui est très dynamique en France. Alexandre Stachenko, j'ai noté 10% des Français possèdent des crypto-monnaies ?
Oui, alors le secteur en tant que tel, bon, c'est peut-être pas le sujet nécessairement aujourd'hui, mais effectivement, il y a quelques entreprises en France qui sont plutôt florissantes. Il y en a d'autres, des entrepreneurs qui ont plus de mal avec différentes contraintes, notamment réglementaires, qui donc partent à l'étranger. Le secteur est très, très, très dynamique aux États-Unis par exemple. Mais en termes de détenteurs, donc, parce qu'on parle des entreprises, mais il y a aussi ceux qui en possèdent. Ceux qui en possèdent, effectivement, c'est un peu plus de 10% de la population en France, sachant que la France...
Les plus jeunes ?
C'est majoritairement des plus jeunes, effectivement, majoritairement plutôt des gens modestes et de façon très très légère, plutôt des gens de gauche. Mais en gros, c'est...
Comment c'est ça ?
On a un sondage qui est fait tous les ans par Ipsos, notamment sur la population française qui détient des cryptos. Il y a 2 ans, de mémoire, les partis les plus surreprésentés dans les gens qui possèdent des cryptos, c'était LFI, PCF et Horizon. Donc, en fait, comme c'est des jeunes urbains, CSP+, revenus modestes, en gros, ça recoupe pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que même avec ces 10%, en fait, c'est beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup parce qu'en France, il n'y a que 7% des gens qui ont des actions. Donc, en fait, on a déjà plus de gens qui ont des cryptos que des gens qui ont des actions. Mais en revanche, c'est peu parce que la France est en retard par rapport à tous ses voisins. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas ou les États-Unis, pour prendre l'autre côté de l'Atlantique, sont en règle générale plutôt entre 15 et 20% de la population.
Mais on a plus d'entrepreneurs en crypto-monnaie qu'ailleurs en Europe, Claire Balva ?
Alors, plus, je ne sais pas. En tout cas, on a un secteur qui est plus structuré, puisqu'effectivement, il y a une association aujourd'hui qui structure le secteur, qui s'appelle l'ADAN, donc l'Association pour le Développement des Actifs Numériques. Donc, le secteur est bien structuré. Maintenant, en nombre d'entrepreneurs, c'est honnêtement très difficile à dire.
Alors, Alexandre Stachenko, qu'est-ce qui attire aujourd'hui les malfaiteurs vers ce secteur ? Vous avez été vous-même victime l'année dernière d'une usurpation d'identité.
D'une tentative, oui. Enfin, alors, c'est au-delà de mon cas personnel, mais moi, dans mon cas, effectivement, en fait, on est surtout ciblé parce qu'il y a des fantasmes qui sont véhiculés par rapport à l'industrie. Et la plupart des gens qui voient le sujet de loin, en fait, sont persuadés que tous ceux qui travaillent dans cet écosystème sont richissimes, que la fortune a été acquise rapidement, qu'ils sont donc beaucoup moins précautionneux quant à leur image. Et que aussi, ils sont persuadés par une image qui a été véhiculée sur le sujet que c'est l'argent des criminels et que donc ça va être facile de s'en sortir. Et en fait, l'intégralité de ça est faux. Évidemment, on l'a dit depuis en début d'émission, tous les enlèvements n'ont pas réussi, au sens où la rançon n'a pas été récupérée par les ravisseurs. Pour une raison très simple, c'est que les crypto-monnaies sont traçables, bien plus traçables que ne l'est par exemple le cash, laissent une trace dans le monde numérique éternel, et donc les forces de police sont en règle générale plutôt très contentes lorsque les criminels utilisent les crypto-monnaies. Donc c'est une idée très débile quand on est criminel de faire ça. Et donc moi, dans mon cas, bon, c'est pas aussi grave qu'un...
Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
On se réveille le matin et en fait notre numéro de téléphone a été volé par quelqu'un d'autre qui reçoit toute sa correspondance, qui essaye de se connecter au site web, au compte bancaire, aux plateformes d'échange.
Donc vous ne recevez plus rien, c'est quelqu'un d'autre qui reçoit
c'est quelqu'un,
tous vos messages.
En fait c'est la complicité de personnes qui sont au sein d'opérateurs téléphoniques et c'est une attaque qui se répand de plus en plus. Là c'est pas un sujet crypto, hein. Ça se répand de plus en plus en France, des gens dans des opérateurs qui vendent l'identité à des malfrats et qui vont ensuite se connecter aux différents services. Alors l'usurpation d'identité en règle générale, si jamais elle réussit, c'est-à-dire si jamais on arrive vraiment aller au bout, ça peut être une galère pour 20 ans. Donc là, moi, j'ai de la chance, entre guillemets, c'est-à-dire que je me protège. Et, par exemple, il y a une bonne pratique de sécurité pour tous nos auditeurs, mettez en place ce qu'on appelle des authentifications à double facteur, avec une application qui vous permet, quand vous connectez à vos comptes bancaires, bah, en fait, on va vous demander de vous connecter sur votre portable pour valider que c'est bien vous dans votre application. Si vous n'avez pas ce genre de dispositif, bah, potentiellement, vous réveillez un matin et c'est plus vous.
Et on voulait vous voler votre identité pour avoir accès à des informations ?
Pour tout simplement se connecter soit aux places de marché crypto, soit aux comptes bancaires pour voler l'argent directement.
Et donc vous avez réussi à déjouer ça ?
Parce que j'ai ces mécanismes de sécurité en place, oui.
A priori, vous nous disiez une chose intéressante, l'argent est davantage traçable. Mm-hmm. Claire Balva, c'est-à-dire qu'il laisse une trace ?
Tout à fait. En fait, les transactions en crypto-monnaie sont complètement publiques. Aujourd'hui, c'est du code qui existe et donc n'importe qui peut aller regarder les transactions qui se passent en crypto-monnaie. Ça veut dire aussi que les plateformes peuvent tracer l'argent. Je disais tout à l'heure que chez Desbloc, nous, on est un compte courant avec un portefeuille crypto. En fait, c'est beaucoup plus facile pour nous de tracer l'argent qui arrive sur le portefeuille crypto, puisqu'on a accès à toute l'information en ligne, que de tracer l'argent qui vient du monde bancaire, où là, bah, les banques, elles ont chacune leur système informatique différent. Et donc, c'est plus facile pour nous d'être sûr que l'argent qui arrive en crypto vient de sources licites que quand l'argent arrive en euros.
Mais quand l'argent a été versé, quand le transfert est fait, est-ce qu'on peut récupérer cet argent ?
Vous voulez dire si on se fait arnaquer, par exemple ?
Oui, par exemple. Est-ce que tout transfert est définitif par rapport à des transferts, à des virements traditionnels qu'on connaît dans le monde de la banque ?
Effectivement, c'est la grande différence entre le monde crypto et le monde traditionnel. Il n'y a pas de censure possible. Donc, une fois que la transaction est faite, elle est faite. Il n'y a pas de rappel de virement.
Est-ce que c'est pas ça qui attire aussi les malfaiteurs, de se dire
sûr.
Si on me verse de l'argent, au fond, plus
bien
personne
sûr.
Ne pourra le récupérer ?
Complètement. Je pense que c'est ça, que c'est une des choses qui les attire. Maintenant, la vraie réponse, c'est aussi la coopération internationale avec les plateformes, puisque souvent, ces malfrats vont essayer envoyer l'argent à des plateformes qui sont dans des endroits un peu moins régulés, en Amérique du Sud. Et donc, il faut que les forces de l'ordre en France puissent coopérer avec les plateformes internationales pour tout de suite aller saisir l'argent dès qu'il arrive sur une plateforme.
Alexandre Stachenko, vous nous avez dit, au fond, il y avait dans la tête des malfaiteurs l'idée que peut-être, puisque cet argent avait été acquis récemment, les gens qui l'avaient obtenu, qui avaient fait fortune ou qui avaient gagné de l'argent avec, étaient peut-être moins prudents que d'autres. Vous dites que c'était une idée fausse. On a quand même vu des comportements qui semblaient un peu hasardeux ou des influenceurs ou des gens qui parlaient de l'argent gagné, et ça peut peut-être expliquer aussi l'appétit des malfaiteurs.
Je sais pas. Alors déjà, il y a un préambule avant d'aller là, c'est que il y a un présupposé et je l'ai vu d'ailleurs tous ces jours qui précèdent aujourd'hui, y compris sur le cas de l'enlèvement de la semaine dernière. Il y a un présupposé de richesse, c'est-à-dire que même le cas de la semaine dernière a été présenté comme le cas de l'enlèvement de la fille d'un riche entrepreneur. Vous n'en savez rien. En fait, c'est dans la plupart des médias, malheureusement, il y a cette couverture qui consiste à dire que si une personne travaille dans la crypto, on va rajouter à côté un qualificatif, riche, mania, ayant fait fortune.
Nous, on a dit que c'était le PDG d'un groupe spécialisé dans la crypto-monnaie.
Voilà, je ne dis pas particulièrement, mais
ce qui est vrai, c'est que dans l'imaginaire des malfaiteurs,
exactement.
Un PDG de quoi que ce soit, c'est quelqu'un de riche.
Alors, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'imaginaire des malfaiteurs, la couverture médiatique dans son ensemble, évidemment pas tous, mais dans son ensemble, est de supposer que parce qu'on travaille dans la crypto, on est nécessairement riche. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a deux choses. Il y a la protection et la discrétion, qui est une bonne pratique de sécurité en général, hein, que ce soit dans le monde numérique ou dans le monde physique. On sait qu'on attire plus l'attention sur soi et qu'on génère plus de risques lorsqu'on montre certaines choses. Maintenant, d'un point de vue philosophique, ça ne devrait pas. C'est pas parce qu'on choisit de montrer X ou Y qu'on devrait être plus la cible d'enlèvement. Il n'y a pas de renversement de culpabilité, ça reste le malfaiteur qui est coupable quand même, c'est pas la personne qui s'expose. Donc après, le problème vraiment de fond, c'est que même si on le souhaitait, et d'ailleurs la plupart des gens qui ont été enlevés ou qu'on a tenté d'enlever en France ces derniers mois n'étaient pas les plus éloquents ou les plus bruyants sur le sujet, ce sont des gens qui sont très discrets, donc c'est pas ça qui a généré particulièrement l'attention. Mais même si on le voulait, la tendance de fond actuelle dans la société, c'est qu'on va vers une forme de criminalisation de la vie privée. Donc en fait, on est dans une injonction contradictoire où nous, on ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir...
Vous faites le parallèle avec des joueurs de foot qui se font cambrioler, par exemple
Je connais pas les affaires des joueurs de foot, donc j'en sais rien, mais
vous savez qu'il y a très nombreux joueurs joueurs de Ligue 1, par exemple, du Paris Saint-Germain ou de Marseille, qui se retrouvent avec leur domicile vidé pendant qu'ils disputent un match, ou victimes eux-mêmes de homejacking.
Il y a peut-être un sujet de sécurité en France de manière plus générale, mais qui dépasse le cadre de la discussion ici. Mon point, juste pour terminer là-dessus, c'était de dire que on est dans un monde où maintenant il y a une fuite de données quasiment par jour. Donc de toute façon, les données qui sont collectées vont fuiter un jour et on devrait arrêter, d'un point de vue à la fois de l'ambiance du débat public mais aussi réglementaire, d'aller vers toujours plus de collecte parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, ça met en danger les gens, ces données fuiteront un jour. Et donc on ne peut pas à la fois aller vers de la criminalisation de la vie privée et ensuite dire aux gens, vous aviez qu'à être discret pour votre sécurité.
Mais ça veut dire quoi, moins de collecte de données privées, concrètement?
Je vous donne un exemple.
Claire Belva.
Une des propositions qui est faite là en ce moment, qui va être faite à l'Assemblée nationale, c'est d'arrêter d'exiger systématiquement les adresses personnelles des dirigeants d'entreprise qui aujourd'hui sont parfois publiques sur des sites comme société.com, comme sur Le Greffe, etc. Ça, c'est un enjeu très important parce que vous avez plein de dirigeants d'entreprise aujourd'hui qui se retrouvent avec leurs adresses personnelles dispo sur Internet et donc ça les met en danger. Mais plus largement, on peut appliquer ce raisonnement aux collectes de données financières qui sont faites sur les plateformes, puisqu'aujourd'hui, si vous avez une grosse plateforme d'échange dont les données fuitent, ça a été le cas d'ailleurs avec Coinbase il y a quelques jours, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des données avec des noms, prénoms, peut-être les montants des portefeuilles, les destinations des transactions qui ont fuité, qui sont vendues sur le Darknet. Et donc ça permet à des criminels, tout simplement, d'utiliser ces données pour aller cibler des personnes. Et donc plus on collecte les données, plus on met des gens en danger.
Ça vaut pour des entrepreneurs de crypto-monnaie, ça vaut pour
tout
chacun.
Tout
exactement. Mais c'est pas un sujet de crypto, en fait, le débat actuel. C'est la crypto est malheureusement peut-être simplement la première cible d'une longue liste qui va amener à croître dans les années qui viennent.
Est-ce que ce n'est pas paradoxal de voir une activité, on l'a dit au début de cet entretien, qui s'est fondée au fond en marge de l'État, en marge des monnaies traditionnelles, une monnaie qui concurrence même les monnaies d'État, en appeler aujourd'hui à l'État pour une protection, Claire Balva?
Alors, je suis un peu gênée par cette analyse, parce que
je l'ai entendue ces derniers jours, peut-être vous aussi, je voulais vous la soumettre.
Je vous mets quand même au défi de trouver une seule personne engagée dans ce secteur qui a, par le passé, appelé au délitement de l'État sur l'aspect de la sécurité. Personne n'appelle à ça, même parmi les plus libéraux, libertariens, etc. Franchement, et vous avez peut-être quelques anarchistes qui sont pour les milices privées, mais ça, c'est pas du tout représentatif du secteur. Donc, en fait, on est en train de faire un reproche à ces personnes sur leurs opinions qui n'a pas lieu d'être. Et au demeurant, même si c'était le cas, honnêtement, quelle est l'opinion politique de la fille de Pierre Noisa? On n'en sait rien. Quelle est l'opinion politique de David Balan sur la question? On n'en sait rien. En fait, ces personnes, elles ont le droit d'être protégées. On ne sait même pas ce qu'elles pensent. Et je trouve ça très gênant, en fait, d'accuser le secteur des crypto-monnaies de s'être fondé en marge de l'État, alors que les personnes victimes, aujourd'hui, elles n'ont rien demandé à personne.
Merci à tous les deux d'avoir été nos invités dans ce 13-14. Merci. Alexandre Skatchenko et Claire Balva, 13h46 sur Inter. Le 51e prix du livre Inter sera dévoilé dans deux semaines, lundi 2 juin, et nous serons ce jour-là avec le lauréat, avec les jurés et avec la présidente du jury cette année, la romancière Marie-Hélène Lafon. Alors, 10 livres sont candidats, sont sur la ligne de départ. Nous allons vous les présenter ici avec Eva Bétan, à commencer aujourd'hui, Eva, par Bristol de Jean Echenoz.
Les deux premières pages du livre, le corps d'un homme nu tombe à 8 mètres de lui. Bristol, c'est son nom, n'y prête pas attention. Début de polar et pas vraiment. Humour léger, distance un peu étrange. Bienvenue chez Jean Echenoz. Notre héros est un cinéaste un peu raté. Nous croiserons une jeune orpheline, un chauffeur coréen, un éléphant star. Nous assisterons au tournage d'un film d'aventure en Afrique australe. Est-ce que vous qui avez toujours aimé le cinéma, il est présent dans nombre de vos livres, est-ce que là, finalement, vous ne vous offrez pas le plaisir suprême d'être quasiment un cinéaste?
J'essaie de me mettre à la place d'un cinéaste. Et c'est une espèce de dommage que je rends de façon encore plus précise au cinéma, qui a été en effet une influence importante pour moi dans la façon de construire des histoires. J'ai essayé d'aller encore plus près de cette pratique en prenant comme personnage principal un réalisateur de films. Pas un réalisateur qui a eu de grands succès, mais un ouvrier du cinématographe.
Voilà. C'est pas John Ford, c'est pas Truffaut, non, c'est...
Non, ça serait peut-être côté Max Pécasse, ou des personnages comme ça, des réalisateurs un peu mineurs.
Vous avez choisi de faire un film d'aventure qui permet beaucoup de choses. Et pour moi, la star, c'est un éléphant. Je voudrais qu'on écoute un extrait. Après une scène où il a dévasté un village. Ayant pris goût au métier du spectacle, c'est tout juste s'il ne réclame pas un raccord de fond de teint, tout en feuilletant le script pour réviser son rôle. Barabino le surprend même une fois, jetant obliquement des coups d'œil de starlette en quête de photographe à sensation. L'équipe s'accorde à le trouver très professionnel.
En vérité, cet éléphant était un des points de départ du roman. J'imaginais un éléphant détruisant un village dans la brousse, au cœur de l'Afrique, donc un spectacle un peu dramatique, et en prenant un peu de recul, on s'aperçoit qu'on est en train de tourner un film. Les romans, enfin les miens, partent toujours de deux ou trois scènes, ou deux ou trois lieux, qui finissent par s'arranger ensemble, et qui font naître des intrigues. Mais je tenais beaucoup à ce que l'éléphant apparaisse comme une force destructrice, et progressivement comme un acteur qui se prend au jeu et qui prend des pauses comme un comédien entre deux prises.
Et est-ce que vous riez quand vous écrivez ça vous-même ? Parce que le lecteur sourit.
J'espère que le lecteur sourit. Moi, je ne me suis jamais entendu rire. Il peut m'arriver que je souris quand j'essaie de mettre au point une scène un peu ironique, un peu drôle, bien sûr. Mais la construction d'une scène comique, disons, c'est du travail et on rit pas forcément pendant le travail.
Est-ce que vous avez une sorte de boîte où vous mettez toutes les petites scènes, les petites choses que vous avez vues en disant peut-être qu'un jour ça servira pour un livre ?
C'est pas une boîte, c'est un petit carnet que j'utilise assez peu en vérité. Il y a quelquefois des scènes dans la vie qui ont une dimension romanesque. Ça peut être un graffiti, ça peut être un propos entendu dans la rue, ça peut être... Ouais, je le mets de côté en me disant que ça pourra servir.
Là, on est dans un studio de France Inter. Est-ce qu'il y a un détail, une chose où vous dites « Ah, ça m'intéresse peut-être un jour
» C'est peut-être le hublot qui est en face de moi, par lequel je vois passer des... Ça pourrait être une phrase.
Donc, si un jour je vois dans un livre une phrase avec quelqu'un qui passe et il y a un hublot, je sais que c'était là.
Ça sera un souvenir commun.
Bristol, Jean Echenoz, c'est aux éditions de Minuit et demain, un nouveau roman.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le lundi à 13h50, les mots de nos régions avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Les mots du cinéma, aujourd'hui Mathieu, en plein Festival de Cannes. L'occasion de parler des histoires d'amour, des trahisons et des stars.
Oui Jérôme, parce que derrière les flashs et les marches en velours rouge, il y a toujours un petit théâtre linguistique. Tenez, commençons par l'amour, le vrai, ou du moins celui qu'on croit vivre dans les 10 premières minutes du film. Au cinéma, comme dans la vie, ça commence toujours par un regard. Puis viennent la rencontre, la drague, le baiser, et parfois la mise en couple. Eh bien, figurez-vous que chaque région a ses propres mots pour raconter ses étapes, comme autant de scènes d'un film. À Marseille, on espinche quelqu'un du coin de l'œil, ou on bade sur lui.
Oui, on bade.
Un mot désormais déjà installé dans le français des jeunes, oui. Et dans le Berry, on arreuille un regard insistant, presque hypnotique. Pour draguer, sinon, les régions rivalisent aussi d'imagination. À Marseille, à nouveau, on alpague. En Lorraine, on court après quelqu'un. Et si la flamme prend, on peut même être bleu de quelqu'un, comme on dit en Belgique.
Ça, c'est beau.
Ouais, pas mal, hein. Vient ensuite le baiser, ou devrais-je dire la colle dans le Perche, ou la babache dans le Nord-Pas-de-Calais. Faire un bisou en Sologne, c'est biger. En Franche-Comté, on dira plutôt biquer. Autant de façons de s'embrasser à la façon cinéma, avec travelling avant et musique de cordes.
Cannes, ce sont aussi les stars et leurs caprices.
Et là aussi, chaque région a ses mots pour désigner les personnages hauts en couleur qu'on croise sur les tapis rouges. Il y a d'abord les émotifs. Dans le Nord, celui qui pleurniche à la moindre contrariété et qu'on qualifie de braillou, toujours à se lamenter, même quand il décroche un prix. Il y a aussi les frimeurs à Marseille. Le type qui roule des mécaniques, c'est un cacou. Et s'il est tanké, ça veut dire qu'il est bien bâti. Chez les femmes aussi, on a tout un éventail. Dans la Provence, la chichinette fait des chichis pour tout et rien. Tout est à faire en fait de mise en scène plus clinquante encore, la cagole à Marseille ou la piche à Montpellier, maquillage appuyé, démarche assurée, regard qui tue, des figures devenues presque presque mythique, et pas seulement dans le Sud. Et puis, on peut parler aussi des relous, qu'on regarde moins gentiment depuis MeToo. En Provence, ce sont les frottadous. Dans l'Est, des courateurs. À Lyon, des couratiers. Et dans le Jura, des courandiers. Et puis enfin, dans les coins un peu plus tranquilles, on a la Basselle Lorraine, une jeune fille souvent romantique, un peu à part. Rien à voir avec le bachelor de la télé-réalité, même si étymologiquement, les deux mots sont apparentés.
Ah, une passerelle entre Basselle et bachelor. C'est un peu comme s'il y avait un petit film dans chaque mot, au fond, Mathieu.
Mais oui, parce que la langue, c'est du scénario en continu. Chaque mot, c'est une réplique. Chaque expression, une mise en scène. Et les régionalismes sont les figurants discrets de cette espèce de cinéma. Et c'est pas par hasard, si les grands réalisateurs aiment tant les dialogues qui claquent. Audiard, Pagnol, Jaoui Boukbakri, ce sont des linguistes déguisés. Ils savent que la langue la plus juste, c'est souvent celle qu'on entend sur un marché, dans une cuisine ou au cœur d'une embrouille sentimentale à la terrasse d'un bistrot.
Ils sont à l'écoute, un peu comme vous, cher Mathieu. Chaque lundi dans ce 13-14, notre linguiste Mathieu Avanzi, de C'est la France à C'est une chanson, avec une chanteuse, justement une chanteuse marseillaise à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier. Elle s'appelle Christina Rosmini.
Elle est en concert à Paris chaque mardi sur la scène de la Divine Comédie, avec un répertoire naviguant entre chansons françaises à texte et musique latine. Et c'est d'un classique de la musique latine qu'elle a souhaité parler, la Llorona, chanson traditionnelle mexicaine.
En fait, c'est presque un parcours initiatique pour moi, cette chanson. Il y a d'abord la rencontre quand je suis toute petite, c'est le premier concert que mes parents m'amènent voir à Marseille. Et c'est John Baez, c'est un choc entre ce qu'elle dégage émotionnellement, sa voix, son engagement. Enfin, déjà toute petite, je me sens appelée. Quelque part, je me dis, c'est ça que je veux être. C'est ça que je veux faire quand je serai grande. C'est-à-dire avoir une guitare, une voix, et non seulement chanter et apporter de l'amour et de la joie, mais apporter aussi quelque part des valeurs, d'humanité. Et je tombe en amour pour cette chanson tout de suite. Et ensuite, ça va se décliner tout au long de ma vie, et avoir comme ça un chemin avec cette chanson très étonnant. Yo soy como el chile verde, llorona,
picante pero sabroso. Donc cette chanson, vous la découvrez grâce à John Baez?
Oui, ça c'est sûr.
Et vous la retrouverez par la suite?
D'abord, je la chante moi dans mes concerts, quand je commence le métier, on va dire toute jeunette. Et puis, je la prends à ma mère, au seuil de sa vie. C'est-à-dire que ma mère ne parlait pas l'espagnol alors qu'elle était 100% espagnole. Et elle me dit « Apprends-moi ma langue ». Et je la lui apprends avec cette chanson. Et donc les derniers temps de la vie de ma mère erre dans la maison avec sa douleur physique et psychique en chantant la Llorona. Donc ça, c'est pour moi très, très impactant. Et juste après sa mort, là, il y a eu le film de Salma Hayek, Frida. Je retrouve cette chanson, et cette fois-ci, c'est Chavela Vargas, c'est la première interprète qui, en 1961, crée la chanson. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Alors, cette version, Frédéric, c'est donc celle de Chavela Vargas. La version préférée de Christina Rosmini, version liée pour elle à un autre souvenir très fort.
Au début de octobre 2003, j'apprends la mort d'un petit garçon. Je ne connais ni les parents ni l'enfant, mais la personne qui vient retrouver mon papa est livide et dit « Je reviens de l'enterrement de ce tout petit ». Et je me dis, à la seconde, je me dis « Il faut que je fasse quelque chose pour ces gens. Il faut que j'offre quelque chose à ces gens, il faut que je les aide ». Quelques mois plus tard, j'ai un appel d'un monsieur qui me dit « Vous ne me connaissez pas. Voilà, je vous appelle parce qu'on va faire la bar mitzvah de mon fils aîné. Et en fait, ça va être une soirée très particulière parce que nous avons perdu un enfant. Et la seule personne pour nous qui puisse faire ça, c'est vous. Parce qu'on sait que vous allez apporter de la joie, mais à la fois, vous allez être connecté à quelque chose qui va nous permettre, nous, de passer ce cap-là. » Et d'un coup, je fais le rapprochement. Je dis « Écoutez, votre petit est mort début octobre. » Il me dit « Mais oui, comment vous le savez ?» Et là, il me dit « J'ai une requête à vous faire. Ma femme, depuis, ne vit qu'en regardant le film de Salma Hayek et je voudrais que vous interprétiez une chanson. » Et là, j'ai dit « Je sais ce que c'est. Je sais, c'est la Llorona. » Il me dit « Mais comment vous le savez ?» J'ai dit « Parce que mon histoire, parce que ma mère, parce que la vie et la mort entremêlées. » Et donc j'ai dit, évidemment, comme j'ai demandé quelque part au grand tout de faire quelque chose pour vous, je vous offre cette soirée parce que ça fait sens, quoi.
Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí.
Quand vous avez été amené à participer à cette bar mitzvah, ça s'est passé de façon étrange aussi. Vous avez ressenti un lien particulier avec les parents de ce petit garçon qui était décédé quelques mois plus tôt.
Vous savez, il y a des moments dans la vie où tout est suspendu. La mère et la grand-mère se tenaient très fortement comme ça, assises, blotties l'une contre l'autre. Et j'y suis allée en mode canal, quoi. C'est-à-dire, je te donne tout ce que je peux te donner de force, de lumière, d'espoir au travers de mes petites chansons, dont celle que tu m'as demandée, qui se trouve être celle avec laquelle j'ai un lien absolument fou.
Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río.
Elle a fait beaucoup, cette chanson, dans votre vie.
Incroyablement, oui. C'est fou, hein? Les hasards, ou les petits liens subtils. De l'indicible.
Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
La Llorona, Chavela Vargas. C'était donc, Frédéric, le choix de Christina Rosmini.
Christina Rosmini, que vous pouvez voir en ce moment chaque mardi à la Divine Comédie à Paris. Elle sera également en concert à Vaison-la-Romaine le 25 juin en première partie de Michel Fugain.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Quel est votre programme aujourd'hui?
Les mirages de la croissance verte.
A tout de suite dans La Terre au Carré.